Bonjour, c'est un privilège, un plaisir de vivre ces moments avec vous ce matin. Je vous rappelle que depuis hier soir, nous réfléchissons sur la thématique « Éduquer nos enfants dans un monde où Dieu n'est pas le bienvenu ». Éduquer nos enfants dans un monde où Dieu n'est pas le bienvenu. Hier soir, nous avons réfléchi sur le thème de jeunes qui ont besoin de modèles et à qui on a besoin de transmettre des valeurs. Cet après-midi, on continuera notre réflexion et on se posera la question de savoir quel capital nous voulons transmettre à la jeune génération. Ou bien, si vous voulez, le produit fini que doit viser notre éducation. Ce matin, nous allons réfléchir sur encourager les parents dans leur mission éducative. Et Dieu sait si les parents aujourd'hui ont besoin d'être encouragés. Nous avons dit hier que élever des enfants aujourd'hui, c'est pas simple. Être deux, ce n'est pas trop. Et nous avons dit que nous avons constaté que de plus en plus, il y a des cellules monoparentales où un seul parent se retrouve pour élever des enfants. Et c'est un défi. C'est pas simple, c'est pas facile. Et nous avons dit que dans l'Église de Jésus-Christ, nous devons nous encourager les uns les autres. Nous avons dit que les couples qui ont encore le privilège d'être en couple doivent être attentifs aux personnes qui élèvent seules leurs enfants. Et bien souvent, ce sont des mamans et elles ont besoin d'être encouragées. Alors, j'aimerais réfléchir avec vous donc à la mission parentale. Être père, être mère, qu'est-ce que ça veut dire concrètement, pratiquement, aujourd'hui ? Avant de réfléchir à ce que nous voulons transmettre à nos enfants, la question de la transmission, aujourd'hui, c'est une réelle question. À bien des niveaux et dans bien des domaines. Et c'est vrai que ce n'est pas simple, mais nous nous laisserons guider par la parole de Dieu. Alors, on va réfléchir d'abord à l'image du Père. Jésus, quand il a enseigné ses disciples à prier, il leur a enseigné à dire « Notre Père qui est aux cieux ». Dans toutes les cultures, le Père représente une image qui doit être bienveillante. Et Dieu sait si notre Père céleste est bienveillant. Malheureusement, le modèle que les pères peuvent donner parfois en ce bas monde est loin du compte. Mais réfléchissons, et je voudrais faire un bref rappel, quand la Bible parle de Dieu en tant que Père, qu'est-ce que recouvre cette réalité de la paternité divine ? Parce que on a dit hier qu'on a tous besoin de modèles auxquels on peut s'identifier. On a besoin de personnes qui incarnent en chair et en os un modèle que nous voulons reproduire. Et l'enfant apprend par imitation. Et nous, les grands enfants que nous sommes, les adultes, on a aussi besoin de modèles auxquels on peut s'identifier. Et Dieu en tant que Père, qu'est-ce qui le caractérise ? Eh bien, la première chose qui caractérise Dieu en tant que Père, c'est que Dieu est amour. Et un père, c'est quelqu'un qui aime. Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Nous avons dit que Dieu aime pas seulement des gens sympathiques, mais même ses ennemis. Il fait pleuvoir son soleil. Il fait pleuvoir. Je crois que vous dormez là. Hein. J'ai dit une grosse... C'est pour voir ceux qui suivent. Hein. Il n'y en a pas beaucoup pour l'instant. Hein. Alors, il fait pleuvoir. Et il fait briller son soleil sur les méchants comme sur les bons. Et la bonne nouvelle, c'est que l'amour de Dieu ne fait pas de discrimination. Ce n'est pas à la tête du client. Vous vous rendez compte si Dieu faisait de la discrimination ? Et Jésus dit que nous devons être les fils de notre Père. Nous disons que Dieu est notre Père. Eh bien, on dit bien en français, tel Père, tel Fils. Dieu, en tant que Père, il offre son pardon de façon généreuse. Et un père, c'est quelqu'un qui offre la grâce, la miséricorde. C'est quelqu'un qui offre la bienveillance. Dieu est le père des orphelins, nous dit Psaume 68, verset 5. Ben, il faut prier pour les papas, hein, parce que c'est un grand défi, c'est un grand ministère. De même qu'il faut prier pour les maris. Et Paul enseigne aux maris d'aimer leur épouse comme Christ a aimé l'Église. Quel défi! Et bien sûr, nous avons tous besoin de la grâce de Dieu. C'est intéressant, quand Paul écrit aux Thessaloniciens, et je vous invite à lire dans votre Bible 1 Thessaloniciens chapitre 2, versets 11 et 12. 1 Thessaloniciens chapitre 2, versets 11 et 12. Alors, je ne sais pas, je n'ai pas prévenu notre frère. Là, c'est vraiment... on est en live, hein, c'est en direct. Et vraiment, rien n'est... C'est pas de l'impro, mais c'était préparé. Bon, mais en tout cas, si ce n'est pas visible à l'écran, 1 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 11 et 12. Et vous allez voir comment Paul utilise l'image du Père. Et il nous donne des indices quant à la mission du Père dans l'éducation. 1 Thessaloniciens chapitre 2, je lis verset 11. Ah, oh ben c'est formidable. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. Verset suivant. Vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Alors, voyez, on voit que le Père, c'est quelqu'un qui exhorte. C'est quelqu'un qui console. Dans d'autres traductions, c'est qui encourage. C'est pas quelqu'un qui enfonce la tête sous l'eau ou qui casse, mais c'est quelqu'un qui exhorte, qui console, qui encourage, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu. Il y a la question de l'exhortation, de l'encouragement. Donc, dans ces deux versets, on voit des fonctions du Père. Alors, on peut dire que la feuille de route du Père se résume en aimer. Le Père est aussi responsable pour créer du lien. Créer du lien. Le lien, c'est un sentiment d'appartenance. Un sentiment d'appartenance à une tribu qu'on appelle la famille. Vous savez, il y a ce qu'on appelle les petits jeunes des banlieues qui n'ont pas reçu dans leur éducation, dans leur famille, ce qu'ils auraient dû recevoir, qui les aurait aidés à vivre dans la société. Ces petits jeunes, sans père ni repère, comme on a dit, eh bien, ils se retrouvent dans une tribu. Et la tribu, eh bien, ce sont d'autres jeunes comme eux, qui s'habillent de la même manière, qui ont le même langage, le même type de comportement. Et quand ces jeunes ne trouvent rien de mieux qu'à faire des bêtises du style à voler le véhicule des forces de l'ordre et puis faire le coup du bélier en défonçant la vitrine du commissariat de police, ces jeunes, quelque part, ils ont le sentiment d'appartenir à une tribu. Et chaque être humain a besoin de savoir qu'il appartient à une tribu qu'on appelle la famille. Et on peut dire que le père, c'est pas seulement le géniteur, mais c'est celui aussi qui doit aimer et qui doit créer du lien entre des personnes différentes pour qu'on ait le sentiment d'appartenir à une communauté qu'on appelle la famille. Et ça, c'est important. Dieu ne nous a pas créés pour être des Robinson Crusoe qui vivons tout seuls sur notre île ou qui ramons tout seuls dans notre coin et voguent la galère. Le Père, je dirais, est aussi responsable, on l'a dit, d'exhorter, de consoler, d'encourager. Allez, on va le dire en un mot très simple, il a la responsabilité de former. Et on peut dire que la famille, dans le plan de Dieu, c'est un centre de formation. Et même, c'est de l'alternance, parce qu'on doit conjuguer la théorie et la pratique. Et la famille, c'est un laboratoire, c'est un centre d'apprentissage où on doit acquérir certains outils. Et une fois qu'on a reçu ce bagage, eh bien, on va pouvoir, je dirais, devenir autonome, voler de ses propres ailes et vivre dans la société. Alors, c'est intéressant de voir comment Paul... Alors, voilà pour l'image du Père et le rôle du Père. Dans les versets précédents, les versets 7 et 8 du même chapitre, il parle de la maman, de la mère. Et voyez, et qu'est-ce qu'il va dire sur la mère ? 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 7. Nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. De même qu'une nourrice, dans d'autres versions c'est une mère, de même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants. Alors rien que sur ces versets-là, non, revenons encore au verset 7, voilà. Plein de douceur. La douceur, c'est une vertu traditionnellement féminine. Bon, c'est vrai qu'il y a des hommes qui sont plus doux que certaines femmes. Mais d'une manière générale, une maman, elle est accommodante. Elle arrondit les angles. Les papas, parfois, sont très tranchés et tranchants. Hein. Il n'y a pas de nuances, il n'y a pas de détails. C'est tout l'un ou tout l'autre. Et les mamans, elles ont le chic pour mettre de l'huile dans les rouages pour éviter que ça grince et que ça coince. Hein. Alors, et Dieu sait si dans l'éducation des enfants, je dirais, c'est comme il faut deux yeux pour poser un regard juste sur notre environnement. Et dans l'éducation, il y a le point de vue du papa, mais il y a le point de vue de la maman aussi. Et je crois que le livre des Proverbes, on l'a lu hier, nous dit « Écoute l'enseignement de ton père et ne méprise pas l'enseignement de ta mère ». Il y a les deux. Et il faut que, je dirais, la rigueur masculine et la douceur féminine puissent se conjuguer et trouver l'harmonie. Oui, ça ne vient pas du jour au lendemain et ça ne pousse pas dans les arbres. Que Dieu nous soit en aide. Mais la douceur. On parle de la nourrice ou de la maman, hein, celle qui donne des soins nourriciers. Un tendre soin pour ses enfants. Dieu sait si une maman est prête à aimer sans compter, sans calculer. L'amour d'une maman pour son enfant, il est désintéressé. Moi, je me rends compte, après 38 ans de mariage, que ma nature masculine, foncièrement, elle est égoïste. Et dans bien des domaines, ma femme, elle est beaucoup plus altruiste, on va dire. Et je sais que d'une maman à l'autre, il y a des points communs. Le verset suivant, verset 8. Donc, dans notre tendresse, dans notre affection, on aurait voulu, de notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore nos propres vies, tant vous nous étiez devenus chers. Et Dieu sait si une maman est prête à aller jusqu'au sacrifice d'elle-même pour le bien de sa progéniture. Alors, dans ces quelques versets, voyez, de 1 Thessaloniciens, on voit que l'éducation, eh bien, il y a l'apport, on va dire, masculin, et puis il y a l'apport féminin. Et il faut, par la grâce de Dieu, un juste milieu. Il faut trouver cet heureux mélange entre la rigueur masculine et puis la chaleur, la douceur, l'affection. Je dirais même la souplesse et la flexibilité de la maman, et puis sa vaillance et son endurance. Alors moi, je reste toujours impressionné de constater que dans l'Écriture, nous avons Proverbe 31, le poème de la femme de valeur. Et je me pose toujours la question de savoir, mais pourquoi il n'y a pas le chapitre 32 où il est passé le poème de l'homme de valeur? Bon, je ne sais pas, j'entends toutes sortes d'interprétations, peut-être vous avez la vôtre, que vous seriez peut-être prêt à me livrer hors micro, parce que je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui m'impressionne dans Proverbe 31, cette femme de valeur, le texte nous dit que ses œuvres lui rendent hommage. Le bien qu'elle fait, ça se démontre au pied du mur qu'on voit le maçon et on voit le bien qu'elle produit. Ses œuvres la louent, son mari la loue. Oh là là, mes amis, moi, quand j'entends un mari qui me parle en bien de son conjoint, je n'ai pas de caméscope, mais j'ai envie de le filmer, hein. Et j'ai envie de téléphoner à TF1 pour dire au JT de 20h, j'ai un scoop, hein, parce qu'on n'en entend pas souvent parler de ce genre de... Et Proverbe 31 nous dit non seulement son mari la loue, mais ses enfants. Ses enfants parlent en bien de leur maman. Quand j'entends un ado qui me parle en bien de ses parents, mais j'ai envie de lui décerner la Légion d'honneur. Bon, j'ai pas ce pouvoir, mais franchement, je me dis, mais... Elle est belle, la jeunesse, hein, et il y a encore de l'espoir, faut quand même pas... Ben, ça peut sembler être un peu idéaliste, mon propos, mais c'est quand même dans la parole de Dieu. Hein. Et je pense que même si on n'est pas marié, même si on est célibataire ou si on vit solo, on a une certaine image du couple, de la famille, des enfants. Et ma foi, c'est pas rêver trop fort ni trop haut que de méditer Proverbe 31. L'éducation des enfants. Napoléon disait que l'éducation des enfants, ça commence 20 ans avant leur naissance. Ben oui, ça commence par celle des parents. Et c'est clair que c'est un grand défi et il faut se préparer et être équipé par la grâce de Dieu. Alors on peut se poser la question, la famille, l'éducation dans la famille, quel objectif ça doit viser? Je suggère que dans la famille, il y a au moins trois grands chantiers qu'il faut ouvrir. Je ne suis pas en train de dire que la vie de famille, ça va être le chantier. Mais je suis en train de dire que dans la vie de famille, on doit ouvrir, me semble-t-il, au moins trois grands chantiers. Il y a trois grandes raisons d'être pour la famille dans le projet de Dieu. La première raison d'être, c'est dans la famille, on doit apprendre à vivre des relations harmonieuse. Apprendre à vivre des relations harmonieuses. Vous savez, à l'église, on peut choisir à côté de qui on va s'asseoir. Mais dans la famille, on ne choisit pas, pour l'instant, et plaise à Dieu que ça reste ainsi, on ne choisit pas son frère ou sa sœur. Encore moins ses parents. Parfois, quand on demande aux ados, si tu pouvais changer trois choses dans ta vie, qu'est-ce que tu aimerais changer? Alors souvent ils vont vous dire, ah moi j'aimerais changer mon look, parce qu'il y en a qui trouvent qu'ils ont des oreilles comme Dumbo ou un nez comme Pinocchio. Bon, la chirurgie esthétique, je vous rassure, c'est pas seulement pour les jeunes filles, mais de plus en plus de jeunes hommes y consacrent une partie de leur budget. Alors l'autre réponse qu'on entend parfois, si tu pouvais changer trois choses dans ta vie, qu'est-ce que tu aurais changé? J'aimerais changer de famille ou mes parents ou de frères ou de sœurs. Bon, Dieu merci, pour l'instant ce genre de, on va pas dire miracle, n'est pas disponible. Mais bon, vous l'avez compris, on peut pas vivre tout seul. Quelqu'un avait un t-shirt là devant, devant c'était écrit j'aime l'humanité. Ouais, c'est beau et c'est cool, hein. Par contre, derrière, c'était écrit, par contre, j'ai beaucoup de mal avec mon voisin de palier, hein. Ouais, parce que j'aime l'humanité, c'est généreux, hein. Et apprendre à vivre avec des personnes que l'on n'a pas choisies. Déjà, je crois savoir que nous, sous nos latitudes, où en général, c'est nous qui choisissons notre conjoint, parce que vous l'avez compris, dans certaines cultures, c'est une affaire de famille qui se décide en haut lieu, hein. Mais déjà, dans notre culture occidentale, où on choisit son conjoint, c'est pas gagné de tenir 40, 50 ou 60 ans, hein. Et c'est nous qui avons signé, qui avons écrit bon pour accord, hein. On en a pris jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et bien déjà, dans ce cas-là, même si au jour de mariage, on croit que tout le monde est beau, tout le monde il est gentil, et comme on dit, hein, l'amour rend aveugle, mais c'est le mariage qui rend la vue, hein. Et quand le mariage rend la vue, on a envie de téléphoner au service après-vente. Parce qu'on dit, je comprends pas, parce que dans le package, il y avait quelque chose que je n'avais pas commandé. Ah. Bienvenue au club, hein. Et j'observe que sous toute latitude et dans n'importe quelle culture, on est logé à la même enseigne, hein. Que Dieu nous fasse grâce. Dans la famille, on doit apprendre à vivre avec des personnes différentes. Et des personnes qui, des fois, il y a des moments, c'est comme dans l'église, on aimerait bien que tel frère ou telle sœur, il aille dans une autre église. Paul dit, supportez-vous les uns les autres, quand il écrit aux Éphésiens. Et pourtant, dans les trois premiers chapitres, il dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Et il dit qu'en Christ, nous avons été prédestinés avant la fondation du monde. Pour que nous soyons saints. En Christ, nous avons été rachetés. En Christ, nous avons reçu le sceau de l'Esprit. En Christ, le mur de Berlin est tombé. Il n'y a plus ni juifs ni païens, mais ces deux peuples forment un seul et même peuple, la nouvelle communauté spirituelle qu'est l'Église. En Christ, l'Église, elle est bénie. Et le chrétien, il est assis avec Christ dans les lieux célestes. Mais, à partir du chapitre 4, dans les lieux terrestres, c'est le défi. Parce qu'il faut aligner notre position en Christ sur notre condition dans la vie de tous les jours. Et Paul dit, supportez-vous les uns les autres. Quand il écrit aux Galates, il leur dit même, ne vous dévorez pas les uns les autres. On a l'impression que du chrétien qui veut manger du chrétien, ça existe. Du chrétien qui veut casser du voisin, waouh. J'admire le réalisme de l'apôtre Paul, hein, parce que d'un côté, il a une vision de l'Église dans les lieux célestes, mais il a encore les mains dans le cambouis et les pieds sur terre, et il sait que ce n'est pas toujours le club méditerranéen, hein, dans les relations personnelles. Et si l'Écriture nous dit « supportez-vous les uns les autres », c'est que Jésus a dit « aimez-vous les uns les autres ». Quand on a dit ça, on a tout dit. Mais concrètement, pratiquement, ça veut dire quoi, s'aimer les uns les autres? Ça veut dire se supporter, ça veut dire se pardonner. Et dans la famille, c'est là où on doit apprendre à résoudre les conflits. Dans la vie, on apprend beaucoup de choses. Et il y a des étudiants qui se demandent pourquoi il faut aller dans l'amphi, entendre des trucs qui ne vont pas nous servir dans la vie plus tard. Parfois, moi, je pose la question à des... Non, ce n'est pas pour décourager les étudiants. Demain matin, il faut aller à la fac quand même. Mais parfois, je leur demande, mais quel point commun il y a entre les études que vous avez suivies et ce que vous faites aujourd'hui? Et souvent, ils me disent, aucun point commun. Mais bon, il faut quand même aller à l'école demain matin. Je vous l'aurais prévenu. Mais on apprend beaucoup de choses dans la vie. Mais il y a quelque chose qu'on nous apprend, c'est comment résoudre des conflits. On n'a pas besoin de suivre un séminaire de formation pour démarrer un conflit. Parce que les conflits, parfois, ça démarre à l'insu de son plein gré. Hein. Et on n'a pas vu venir. Bon, parfois, c'est récurrent, c'est là où il faut consulter et se poser des questions. Mais apprendre à résoudre des conflits. Eh bien, moi, je pense que nous, les parents chrétiens, qui reprenons... Le petit frère, quand il a mordu la grande sœur, parce que ça peut arriver, l'inverse aussi peut arriver, eh ben, on investit dans la future vie de couple. Parce qu'il y a des petits mots dans les relations personnelles qui peuvent faire des miracles. Merci, on en a bien entendu parler tout à l'heure, pourquoi on doit rendre grâce à Dieu. Mais dans les relations personnelles, les petits mots merci, s'il te plaît, pardon, je te pardonne. Mes amis, ces petits mots-là, c'est facile à dire. Ben, il faut assurer le service après-vente. Hein. Mais ça peut faire des miracles dans la vie de couple. Et ça peut éviter d'engorger les tribunaux. Bon, même si maintenant, il semble qu'en 2017, en France, on peut divorcer sans passer devant monsieur le juge. Mais ce n'est pas une raison pour laquelle il faut se dépêcher d'aller vite. Apprendre à résoudre les conflits. Et dans la famille, par définition, on est différent, on n'a pas tous les mêmes intérêts. Nous, dans notre famille, on a 5 enfants, hein, bon, on pulvérise la moyenne nationale, on a 4 garçons et une fille. Et aujourd'hui, bon, l'aîné, il a 36 ans, notre dernière, une seule fille, elle a 25 ans. On aimait bien faire des jeux en famille, parce qu'on disait que la manière dont quelqu'un sait gagner révèle une partie de son caractère. Mais la manière dont quelqu'un sait perdre révèle tout son caractère. C'est pédagogique, hein? Et je trouve que au bout d'un certain temps, c'était difficile de trouver un jeu qui intéresse tout le monde déjà. Hein. Parfois, il fallait négocier. Et si on n'avait qu'une heure pour jouer, parfois pendant 3/4 d'heure, on hésitait encore. Et puis après, ben, le poisson était noyé, on n'avait plus de temps. Hein. Mais voilà. En tout cas, le premier chantier de la famille, je suggère, c'est apprendre à développer des relations harmonieuses, satisfaisantes, paisibles, significatives, qui nous donnent envie de nous retrouver. Ça veut dire qu'on doit apprendre à se demander pardon. Et si on n'apprend pas à se demander pardon et à résoudre les conflits dans la famille, moi je vous demande où est-ce que nos jeunes, nos enfants vont apprendre. Je ne pense pas que c'est nécessairement avec leurs copains, ni sur Internet, ni avec ce qu'ils entendent dans les médias. Deuxième chantier, me semble-t-il, que la famille devrait ouvrir et dans laquelle on doit travailler, c'est promouvoir une communication positive. Promouvoir une communication positive. La communication, c'est l'art de savoir entrer en relation avec d'autres personnes. La communication, ça touche bien sûr pas seulement au langage, mais aux attitudes. à ce que l'on communique d'une manière verbale, mais aussi non verbale. Mais évidemment, ça touche au langage. Et ça touche au contenu de ce que nous émettons, de ce que nous communiquons. C'est intéressant de constater que Jésus, au début de son ministère, l'Évangile nous dit, une voix s'est faite entendre, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. » Qui saura dire le pouvoir de bénédiction d'une parole positive qui tombe à point nommé? Il y avait James Dobson, un psychologue chrétien, il y a 20-25 ans déjà, aux États-Unis. Il observait que, et pourtant Dieu sait si aux États-Unis, on ne fait peut-être pas ses courses chez Carrefour, mais on positive. Il disait, d'après ses statistiques, dans les familles chrétiennes, on entend 80% de reproches, de réprimandes, de critiques, et seulement 20% de paroles valorisantes, d'encouragement et de compliments. Waouh! Et il dit, on devrait inverser la proportion. La question est de ça. Quel est un des reproches des ados qu'ils font à leurs parents? Allez, un petit micro, caméra cachée, et micro. Là, je sais que les ados, ils m'écoutent. Alors, souvent, les ados, ils disent, ouais, les parents, ils parlent bien, mais entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font, il y a parfois un décalage. Et un des reproches, c'est, ouais, nos parents, ils nous disent toujours ce qui ne va pas. Ils ne nous disent pas toujours ce qui va bien. Et on entend plus souvent des reproches et des critiques que des compliments. Et moi, je dois dire, je me rends compte, quand je réfléchis parfois avec nos 5 enfants, j'avais l'impression parfois qu'être père de famille, c'était faire de la répression policière. T'as fait tes devoirs, t'as rangé ta chambre, t'as brossé tes dents. Encore, c'est assez soft et assez gentil ce que je dis là. Mais Jésus, tout fils de Dieu qu'il était, il avait besoin de savoir qu'il jouissait de l'approbation de son Père céleste. Et nos enfants, qui vont devenir des adolescents, qui vont devenir des jeunes adultes et qui vont devenir des hommes et des femmes, s'ils n'ont pas reçu l'encouragement dont ils ont besoin dans nos foyers, dans nos familles, qui doivent être quelque part des milieux protégés. Ça ne doit pas être des bunkers, on ne peut pas les protéger du monde. Mais s'ils n'ont pas compris qu'il y a un endroit sur la terre où quoi que je fasse, quoi que je devienne, je suis encore le bienvenu, s'ils n'ont pas ça et s'ils n'ont pas compris que c'est dans la famille où ils peuvent trouver ce refuge, eh bien moi je vous pose la question, où vont-ils trouver cet espace ? Je ne pense pas que ce soit encore une fois auprès de leurs copains, dans la rue, sur Internet, dans les médias ou dans les films qu'ils vont voir au cinéma. On va le dire cet après-midi, nos ados, nos jeunes, nos enfants, dans la famille, alors ils ont besoin d'être repris, bien évidemment. Ils ont besoin qu'on leur dise avec amour ce qui ne va pas et leur montrer comment ils doivent s'améliorer. Mais ils ont besoin de savoir, d'entendre le bien que l'on pense d'eux. J'ai entendu l'histoire d'un monsieur, après une trentaine d'années de mariage, sa femme se plaignait que son mari, il n'était pas toujours au top. Et l'épouse a parlé au pasteur et le pasteur a parlé au mari. Et le pasteur a dit au mari, frère, il faut que vous montriez par des actes concrets que vous aimez votre femme et il faut le lui dire. Mais le monsieur, elle a tout compris. Bien sûr. Mais le problème, c'est que ce qui est évident pour les dames, c'est pas toujours évident dans... Et vous savez ce que le monsieur, il a répondu ? Mais vous voulez que je lui dise que je l'aime ? Mais je lui ai dit il y a 30 ans, elle le sait déjà ! Elle le sait déjà ! Ben oui. Mais le problème, vous savez, les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus. Bon, c'est pas biblique, mais ça veut dire quand même qu'il y a des différences. Et il faut faire l'état des lieux et apprendre à conjuguer les différences parce que sinon chacun va rester frustré de son côté. Et il faudra faire de la bonne mixture, bien conjuguer les différences pour trouver l'harmonie. Nos enfants, nos jeunes, nos ados, ils ont besoin de savoir que nous, leurs parents, on les aime d'une manière inconditionnel. Et là, la barre, elle est haute, hein? Parce que c'est comme cela que Dieu nous aime. Dieu nous aime d'une manière inconditionnelle. Il ne nous aime pas à condition que, ou lorsque, ou si nous remplissons un certain nombre de conditions. Dieu connaît mon dossier sur toute la ligne et il m'aime tel que je suis, sans me laisser là où j'en suis, mais il n'attend pas que je sois au top avant de m'accueillir. Et vous connaissez Luc 15, la parabole. On dit la parabole du fils prodigue. On devrait dire c'est la parabole du père rempli d'amour. Parce que Luc 15 nous enseigne, c'est quoi un père? Eh bien, c'est quelqu'un, quand j'ai fait tout ce qu'il ne fallait pas faire, eh bien, il m'accueille encore comme un fils, et comme un fils du roi. Et il me fait la fête, je reviens demander pardon. Et finalement, la mission des parents, c'est aimer, aimer, aimer. Mais finalement, pardonnez-moi de le dire ainsi, mais j'allais dire, entre guillemets, c'est le métier de Dieu. C'est ce que Dieu fait, j'allais dire, à longueur de journée. Dieu est amour. Et nous, les parents chrétiens, par la grâce de Dieu, nous devons être ce canal. Nous qui avons été touchés par l'amour de Dieu, on doit être ce canal au travers duquel l'amour de Dieu va toucher nos enfants, nos ados, pour qu'ils puissent retenir de nous qu'un père, une mère, c'est quelqu'un qui m'aime de façon inconditionnelle. Quoi que je devienne, quoi que je fasse, je sais qu'il y a un endroit sur la planète Terre où je serai toujours le bienvenu. Ça, c'est le deuxième chantier, me semble-t-il, dans un projet chrétien de la vie de famille. Apprendre à vivre des relations, apprendre à communiquer d'une manière positive. Il y a des enfants, des jeunes, auxquels on a prononcé des prophéties de malheur. Oui, tu es un bon à rien, ou tu es ceci, tu es cela, tu es bête, tu es nul, tu es moche, et je vous fais grâce ici de tout petit nom d'oiseau dont la langue de Victor Hugo est pourvue. Le médecin, le docteur Paul Tournier, qui a initié la médecine de la personne, il a montré dans un de ses livres que nombre de ces personnes sur lesquelles on a prononcé une prophétie de malheur ont tout fait pour faire mentir la prophétie. Et il a observé que dans l'histoire de l'humanité, il y a des hommes auxquels on a prédit le pire. Et il cite des gens comme Adolf Hitler ou comme Alexandre le Grand, auxquels on a prédit qu'ils étaient nuls, bêtes, moches et qu'ils n'arriveraient à rien du tout. Et ces gens-là ont remué ciel et terre pour faire mentir la prophétie et pour montrer que, contrairement à ce qu'on avait prédit à leur sujet, ils étaient capables d'autre chose. Communiquer d'une manière positive. Jésus dit dans Matthieu 7, 1 à 5, que nous devons balayer d'abord devant notre propre porte, nous devons d'abord enlever la poutre qui est dans notre œil avant d'enlever la paille dans l'œil du prochain. Et puis le troisième chantier dans la vie de famille, me semble-t-il, et c'est là où je rejoins la question, la famille, un centre de formation par alternance, la famille, c'est là où on doit dispenser une formation personnalisée. Nous qui avons plusieurs enfants, nous savons que chaque enfant est unique. Et on ne peut pas utiliser la même pédagogie avec l'un et l'autre. C'est rare qu'on puisse faire copier-coller. Hein? Chez nous, on avait 4 garçons et une seule fille. Avec nos garçons, parfois, tant qu'on n'avait pas sorti l'artillerie lourde, eh bien, le message ne passait pas. Avec notre fille, il suffisait de hausser le ton un demi-ton au-dessus, et là, pas ni problème, c'était clair et le message était bien passé, bien communiqué. Donc, c'est une question de formation personnalisée. Et d'ailleurs, Dieu ne traite pas mon dossier de la même manière qu'il traite le vôtre. Dieu, j'allais dire, fait du, en bon pédagogue, c'est du sur-mesure, c'est de l'art. Bien sûr que les principes pédagogiques sont les mêmes pour tout le monde, mais la manière de les appliquer, et tout est dans l'art et la manière. La famille, c'est là où on doit répondre aux questions. Alors bien souvent, les papas, quand l'enfant pose une question, va voir ta mère. Les mamans, elles doivent avoir, alors on le sait, un bassin très large pour pouvoir accoucher. Elles doivent être très courageuses à bien des égards. Et puis, il faut qu'elles aient les épaules larges. Hein. Et quand nos petits séraphins dans la cour de l'école petite section, je te le jure sur la tête de ma mère, eh ben les pauvres mamans, hein. Et même quand le chien éternue 3 fois de suite, on se tourne vers la maman, hein. Il faut qu'elle fasse quelque chose. Qu'est-ce qu'on lui met pas sur les épaules? Il faut vraiment prier pour que les mamans tiennent. Mais c'est un grand défi. Alors, j'ai oublié le fil de ma pensée. Pourquoi j'ai parlé des mamans? Aidez-moi à remonter, à rembobiner la cassette, là. Hein, faire rewind, là, avec le CD. On va voir ceux qui suivent, d'ailleurs. Parce que moi-même, j'ai perdu le fil. La douceur. La personnalisation, voilà. Faire du sur-mesure. Et bien sûr que le papa, il ne doit pas... Je disais aussi que la famille, c'était un centre d'apprentissage. Et là, c'est dans la famille où on doit répondre aux questions. Et c'est dans la famille où on doit avertir des dangers. Ben oui, on ne vit pas dans un monde de bisounours. La famille, c'est là où on doit apprendre à résoudre, j'ai dit, les conflits, mais les problèmes aussi. Dans la famille, on doit délimiter un périmètre de sécurité, fixer des points de repère. Il y a des limites qu'il ne faut pas dépasser. C'est comme dans le code de la route, il y a des bandes blanches, hein, au milieu de la chaussée et sur le côté qu'il vaut mieux ne pas mordre ou ne pas... Et puis dans la famille, c'est là où on doit recevoir et offrir l'amour qui vient de Dieu. C'est un centre d'apprentissage. Alors, il y a un beau texte dans l'Ancien Testament qui est à la base du judaïsme encore aujourd'hui. C'est le texte de Deutéronome 6. Deutéronome 6, verset 5. Et on va lire ces versets. Deutéronome, chapitre 6, verset 5. Deutéronome 6, verset 5. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Arrêtons-nous un instant. Le but de l'éducation, c'est pas de faire de mon enfant un clone de moi-même, une copie conforme et carbone. Le but de l'éducation, c'est d'amener l'enfant, l'ado, à aimer Dieu de tout son cœur et à aimer son prochain. Jésus, il a résumé toute la loi par le grand commandement de l'amour. Et il a dit, pour résumer tout l'enseignement de l'Ancien Testament, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suggère que le but de l'éducation, c'est d'amener nos enfants à aimer Dieu et à aimer leur prochain. Verset suivant, verset 6, Deutéronome 6. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Dans ton cœur. Alors, dans l'Ancien Testament, la loi de Dieu, elle était fixée sur... Elle était écrite sur des tables de pierre. La Nouvelle Alliance, Jérémie 31, avait dit que le projet de Dieu, c'était d'inscrire la loi de Dieu dans le cœur, d'intérioriser la loi de Dieu. Et on peut dire que le but de l'éducation, c'est que l'enfant, l'ado, le jeune, puisse intégrer dans son être intérieur la loi de l'Éternel. C'est pas du bourrage de crâne, c'est pas à la force du poignet et en tordant le bras à l'enfant, mais cela doit toucher le niveau du cœur et ça doit être intériorisé. Verset 7. Tu les inculqueras à tes enfants. Et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Alors, c'est intéressant, il est question d'inculquer. Tout à l'heure, je disais que éduquer, c'est transmettre. Transmettre des valeurs. Et encore une fois, ce n'est pas à la baguette. Ce n'est pas du bourrage de crâne. Transmettre, et on va le répéter. Comment est-ce qu'on transmet? La meilleure façon de transmettre, c'est d'incarner les valeurs et le modèle que l'on veut transmettre. Et on a dit hier, on a parlé de Jésus qui a dit le Fils ne fait rien de lui-même, tout ce qu'il voit faire au Père, il le fait pareillement. Jésus, tout fils de Dieu qu'il était, il imitait son Père. Et ce que son Père a fait avec lui, lui il le fait avec ses disciples. Par exemple, Jésus dit, de même que le Père m'a envoyé dans le monde, eh bien moi, j'envoie mes disciples dans le monde. Vous voyez, la meilleure façon de transmettre ou d'inculquer, alors bien sûr, il faut parler, il faut enseigner, mais c'est d'incarner le modèle et être un exemple. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, en voyage, quand tu te couches, quand tu te lèves. Dans le judaïsme et dans le plan de Dieu, il n'y a pas des heures de bureau. Je veux dire par là que l'éducation, c'est du 7 sur 24. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Il n'y a pas vie privée, vie publique. Il n'y a pas vie spirituelle d'un côté et vraie vie de l'autre côté. Cette idée de séparation, on appelle ça le dualisme. Et le dualisme, ça vient pas de la Bible, ça vient de Platon. Bon, on va pas parler des absents qui ont toujours tort. Platon, il est mort il y a longtemps. Mais sa philosophie, elle a influencé même l'Église encore pendant tout le Moyen-Âge et même encore aujourd'hui. Trop souvent dans nos églises, les gens évangéliquement corrects qui viennent à l'église pensent que le dimanche matin, c'est Dieu, c'est Jésus, c'est mon âme. Et quand le culte est terminé, on ferme le tiroir, on dit « Seigneur, au revoir, bonne semaine, à dimanche prochain si tout va bien. » Et puis après, ben, c'est la vraie vie. Et quand on est à l'église, eh bien Dieu il a son mot à dire et on écoute sa parole. Mais une fois que le tiroir de l'église il est fermé, à moi la belle vie, maintenant, à bientôt Seigneur, hein, et je vis ma vie. Augustin disait, si Jésus n'est pas Seigneur de tout, il n'est pas Seigneur du tout. Et Jésus a son mot à dire, pas seulement dans ma vie spirituelle, dans ma relation avec Dieu, mais il a son mot à dire dans la manière dont je traite mon conjoint, dans la manière dont je vis ma vie de couple, ma vie de famille, dans la manière dont je traite mes collègues au travail et dont je traite les personnes qui me marchent sur le pied ou qui éternuent dans mon visage quand je prends les transports en commun. Et c'est du concret, ça touche à chaque domaine de la vie. Et ce qui est impressionnant, c'est que l'éducation, alors vous l'avez remarqué, la charge d'éduquer, ça revient aux parents. Et l'éducation des enfants, c'est un chantier qu'en aucune façon, il faut sous-traiter. Ce sont les parents, devant Dieu, qui sont responsables de l'éducation de leurs enfants. On a entendu à une heure de grande écoute un jour, il n'y a pas si longtemps, une sénatrice déclarer tout de go, sur lequel l'enfant n'appartient pas à ses parents. Alors ça, mes amis, c'est un relent de régime de dictature. Hein, parce que les dictateurs, ils entendent s'ingérer entre les enfants et leurs parents. Mais d'un point de vue biblique, nous les parents, nous avons la mission, la responsabilité d'enseigner nos enfants. Parfois dans nos églises, les parents pensent que enseigner, parler de Jésus à leurs enfants, c'est le job de l'église. C'est pour ça qu'on vient à l'école du dimanche, hein. Oui, mais ça ne veut pas dire que dans la famille, il ne faut pas lire la Bible et enseigner nos enfants. Et là, Dieu dit, mais tout au long de la journée, ce n'est pas seulement le dimanche quand on est à l'église, mais dans le quotidien. Et Dieu ne sépare pas, je dirais, le matériel du spirituel. Et donc, c'est très important, cette question d'intérioriser la foi et la nécessité d'impliquer la famille. Je crois que, je ne sais pas à quelle heure est prévu le repas, mais je crois que le poulet risque de brûler dans le four. Alors il vaut peut-être mieux s'arrêter là, parce que je crois que mon temps est épuisé. J'espère que mon temps est épuisé avant que mon auditoire soit épuisé. Mais cet après-midi, donc, si Dieu veut, on va continuer de réfléchir sur cette thématique, le patrimoine moral que nous voulons transmettre à nos ados, à nos jeunes. Quel est le produit fini dans différents domaines que vise notre éducation. Et donc, pour résumer ce qu'on a dit, rappelez-vous, on a parlé du rôle du père, aimer, le rôle de la maman, c'est une équipière, un vis-à-vis, elle est le copilote, on va dire. Il faut un pilote, il faut un copilote, hein, c'est mieux d'être deux. On a parlé des trois grands chantiers de la famille. Hein. On a dit que le premier, c'était développer des relations satisfaisantes, résoudre les conflits. Deuxièmement, communiquer d'une manière positive et offrir des paroles valorisantes et non pas des critiques, uniquement des critiques et de remontrances. Et puis en troisième lieu, on a dit que la famille, c'était un lieu de formation. Bon courage pour la mise en pratique. L'enseignement est gratuit, mais ce qui coûte cher, c'est la mise en pratique. Et là, on peut se serrer les coudes et prier les uns pour les autres. Je rends le micro à notre frère Pierre qui va conclure comme il se doit.